VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, John Lyndon et Morgan Yeriak au micro. Bienvenue à cette édition du mardi 16 février 2016. À la une ce soir.
Kinshasa au ralenti ce mardi, une grève générale lancée par l'opposition au président Joseph Kabila.
Boutros Ghali n'est plus. L'ancien diplomate égyptien et secrétaire général de l'ONU est décédé dans son pays à 93 ans.
Au Burundi, les mototaxis n'ont plus le droit de circuler dans la commune de Mukaza. Les autorités les soupçonnent de transporter des criminels.
Et puis, visite surprise de l'émissaire de l'ONU à Damas. Staffane de Mistura doit discuter de la reprise des négociations et du cessez-le-feu avec le gouvernement.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal.
Élections en République centrafricaine, les résultats du second tour de la présidentielle et du premier tour des législatives commencent à tomber. L'ANE a rendu public une partie des résultats et on fait le point avec Freeman Sipila.
Pour la présidentielle, les premières tendances données ce mardi après-midi par l'Autorité nationale des élections, ANE, donnent l'ancien Premier ministre de François Bozizé, Faustin Archange Touadéra, en tête dans plusieurs centres de vote de la capitale et des communes périphériques. Les résultats, une fois traités et compilés, sont publiés bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, seulement les résultats provisoires et partiels de 7 arrondissements de Bangui sur 8 ont été rendus publics. Un responsable à l'ANE a indiqué que la publication de ces résultats dépend de l'avancée du traitement des données. Dans le camp d'Anissé Georges Doleguélé, l'on garde encore espoir car il s'agit des résultats provisoires et partiels. Entre-temps, c'est la liesse dans le camp de son rival. Le nom du nouveau président ne sera pas connu avant la fin de la semaine, a assuré une source proche de l'ANE. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Bilan des attaques à la grenade à Bujumbura, Médecins sans frontières dit avoir pris en charge plus de 60 blessés hier dans la capitale burundaise. Un afflux qui a poussé l'ONG à déployer un plan catastrophe. Deux décès ont été rapportés.
Grève générale en République démocratique du Congo. À l'appel de l'opposition anti-Kabila, les habitants de Kinshasa sont restés massivement chez eux aujourd'hui. On fait le point sur place avec Gino Rema de Top Congo FM.
La plupart des écoles n'ont pas ouvert leurs portes aux élèves ce matin dans la commune de Barumbu.
Je venais de chez moi et je me rendais à l'école. Et en arrivant là-bas, je trouvais que l'école était fermée. J'ai pas compris, on nous avait demandé de venir. Mais ils ont changé de décision.
Quelques taxis aussi sont visibles. Ces chargeurs de Kingabwa.cho s'est plaint qu'il n'y ait pas de clients.
Depuis le matin, les gens ne sont pas sortis. Pas de clients. Nous crions et les clients ne viennent toujours pas.
Même plainte du côté des motards. Dans la commune de Barumbu, la plupart des écoles sont fermées. Les boutiques et magasins mêmement. La circulation est timide. Aux stations arrêt de taxis du commerce 24 novembre, Limete Lemba, ainsi que Kingabwa TP et Nzambila.cho, les taxis sont moins nombreux. Comme de coutume, chacun observe encore dans l'espoir que dans quelques heures, tout redeviendra normal. Kinshasa, Gino Rema pour VOA Afrique.
Au Rwanda, l'avocat de l'opposante Victoire Ingabire dénonce les difficultés pour rencontrer sa cliente. C'est ce qu'indique l'AFP, citant une lettre adressée au bâtonnier du Rwanda. Victoire Ingabire purge une peine de 15 ans de prison et son avocat souhaite préparer une demande de révision de son procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
En Ouganda, c'est le dernier jour de campagne avant les élections de jeudi. Les principaux candidats tiennent leur dernier meeting à Kampala. Idriss Fall.
Yoweri Museveni, 71 ans, tient son meeting final dans le centre de Kampala. Il est donné favori et peut compter sur le savoir-faire de son parti et sur des ressources financières sans commune mesure avec celles des opposants. Il a qualifié les leaders de l'opposition de menteurs, disant que ce serait une énormité de leur confier le pouvoir. Il fera face à 7 candidats, dont Kizza Besigye, déjà battu lors des 3 derniers scrutins et qui promet de mettre un terme aux 30 années de pouvoir du président sortant. Besigye a assuré que si cette élection est truquée comme il s'y attend, il continuera à se battre pour la démocratie. Amama Mbabazi, ancien cacique du pouvoir, a lui aussi promis le changement. Hier, une personne a été tuée à Kampala lorsque la police a dispersé Manu Militari, un rassemblement d'opposants. Kizza Besigye a été brièvement interpellé. Le dernier mot reviendra jeudi à quelques 15 millions d'électeurs appelés dans 28 000 bureaux de vote pour choisir leur président et 290 députés.
Lutte contre Boko Haram, l'armée camerounaise dit avoir neutralisé 162 terroristes lors d'une offensive en Goché au Nigeria. L'offensive de la semaine dernière visait le commandement du groupe islamiste. Beaucoup d'armes et de matériel auraient été saisis. Une centaine de prisonniers de Boko Haram ont été libérés. Deux jeunes officiers ont été tués côté camerounais.
Et Guinée, 20 militants de l'opposition arrêtés la semaine dernière dans le cadre d'une enquête sur la mort par balle d'un journaliste ont été inculpés et écroués. C'est ce qu'ont annoncé à l'AFP aujourd'hui des avocats de leur parti.
Manifestation de jeunes à Niamey. Sans incident, de milliers d'étudiants et de collégiens ont marché dans les rues de la capitale du Niger. Ils entendaient ainsi commémorer le décès de trois jeunes en février 1990 sous les balles de la police.
Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, est mort ce mois-ci à l'âge de 93 ans. C'est ce qu'annonce le Conseil de sécurité. Le diplomate égyptien avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général en 92-96. On y reviendra en seconde partie d'émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'émissaire spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, s'est entretenu aujourd'hui à Damas avec le ministre syrien des Affaires étrangères. Ses entretiens avec Walid Mualem ont porté surtout, selon M. Mistura, sur le libre accès humanitaire à toutes les régions assiégées, non seulement par le gouvernement, mais aussi par l'opposition et le groupe État islamique. Les précisions d'Idrissa Seydou Dia.
Plus d'un million de personnes vivent avec un risque accru de décès à cause du manque de nourriture, d'électricité et d'eau courante dans 46 localités encerclées, selon un rapport de l'ONU. Les États-Unis, la Russie et leurs principaux alliés sont tombés d'accord la semaine dernière sur une cessation des hostilités en Syrie dans un délai d'une semaine afin de relancer le processus de paix et de stopper l'exode de civils. Un accès accru et immédiat de l'aide humanitaire aux civils en détresse a été notamment décidé. Pour sa part, M. Mualem a répété la position de son gouvernement, à savoir poursuivre un dialogue intersyrien avec un leadership syrien et sans préalable. L'opposition, quant à elle, réclame l'arrêt des bombardements et l'acheminement de l'aide humanitaire pour revenir aux négociations de Genève qui devraient reprendre le 25 février.
Et la Turquie a fait part de son malaise à la France qui appelle à l'arrêt de ses frappes contre les Kurdes syriens. La France avait appelé dimanche à la cessation immédiate des bombardements en Syrie, aussi bien ceux des Turcs contre les positions kurdes que ceux menés par Damas et son allié russe dans tout le pays. Selon le Quai d'Orsay, le ministre français des Affaires étrangères a de son côté insisté auprès de son homologue turc sur la nécessité de parvenir à une cessation des hostilités et une reprise des négociations inter-syriennes. Les investisseurs espéraient une baisse de la production. Ils vont devoir se contenter d'un gel et encore sous conditions. Réunis à Doha, l'Arabie Saoudite, la Russie et le Venezuela, et puis également le Qatar, ont en effet annoncé un accord pour geler la production à ces niveaux de janvier. Les précisions de Lionel Gaïma.
Les deux plus gros pays producteurs de brut associés au Qatar et au Venezuela ont dit qu'ils géleraient leur production à des niveaux de janvier, à condition que les autres producteurs leur emboîtent le pas. Mais cet accord a peu de chances d'entraîner un rebond de prix, selon plusieurs experts interrogés par l'AFP, d'autant que l'Arabie Saoudite et l'Iran, un autre gros pays producteur, sont à couteau tiré et s'affrontent indirectement au Yémen et en Syrie. Après que l'ensemble des pays producteurs ont largement pompé dans une course effrénée aux parts de marché depuis plus d'un an, ce gel ne change rien aux fondamentaux du marché parce que, parmi les quatre pays, il n'y a aucun dont on attendait encore une augmentation substantielle de production, ajoute Jean-Marie Chevalier, expert du secteur. Parmi eux, certains comme l'Algérie, le Nigeria, l'Angola, souffrent des prix bas du pétrole qui pèsent sur leur budget. Un accord de l'OPEP sur la baisse de la production ferait aussi les affaires des États-Unis, devenus arbitres du marché du pétrole grâce au boom des hydrocarbures des schistes.
Les liaisons aériennes commerciales entre les États-Unis et Cuba, interrompues depuis plus de 50 ans, vont reprendre prochainement avec la signature ce mardi d'un accord bilatéral autorisant jusqu'à 110 vols réguliers quotidiens entre les deux pays. La réouverture des liaisons aériennes est un nouveau signe tangible du dégel des relations entre Washington et la Havane.
Sachez aussi que le long processus de désignation des 6229 candidats aux législatives iraniennes du 26 février s'est achevé aujourd'hui, ouvrant la voie à une courte campagne électorale d'une semaine qui débute aujourd'hui. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Bon résultat pour Orange en Afrique. Le groupe Télécom français a maintenu sa croissance et ses marges en Afrique et au Moyen-Orient en 2015. À la fin de l'année, Orange comptait 110 millions d'abonnés en Afrique et au Moyen-Orient, où il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,89 milliards d'euros, en hausse de 5,1% à base comparable sur un an. C'est la seule zone dans laquelle Orange a vu ses revenus progresser. Selon le magazine Jeune Afrique, environ 71% des nouveaux clients d'Orange en 2015 ont été gagnés dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Wara, l'agence de notation financière West Africa Rating Agency, basée à Abidjan, a annoncé hier un abaissement de la note du port autonome de Dakar, qui passe de BBB+ à seulement BBB. Selon leur communiqué, cette note reflète l'affaiblissement de la qualité de la gouvernance du port, ainsi que la dégradation de sa situation financière structurelle. La Banque mondiale a promis d'accorder à Madagascar des financements d'un montant global de 690 millions de dollars sur 3 ans. Un versement soumis toutefois à quelques conditions, dont des réformes liées à la gestion des finances publiques, des réformes sur le fonctionnement des institutions publiques et sur la stabilité politique.
Voilà pour l'actualité économique. Merci Claire.
Bagassi Koura est dans ce studio et c'est pour parler de sport. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir John Lindon, bonsoir à tous.
On commence par Hervé Renard qui est de retour sur le continent.
Oui, c'est officiel, hein. Le français Hervé Renard est bien le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas en remplacement du Marocain Badou Zaki. Son premier objectif, dit-il, est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et aussi pour la Coupe du Monde 2018. Âgé de 47 ans, Hervé Renard a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.
En football, 8e de finale aller ce soir de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, les Portugais du Benfica reçoivent le Zénith Saint-Pétersbourg à Paris. Donc le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea Football Club au Parc des Princes. L'international ivoirien Serge Aurier ne sera pas de la partie plus tôt. Il a été suspendu par le Paris Saint-Germain suite à des propos injurieux ce week-end. Les Parisiens auront affaire à des Blues qui restent sur une série de 12 matchs sans défaite et un large succès samedi contre Newcastle 5-1 pourrait leur donner de l'élan ce soir. Écoutez l'analyse avant-match de Christian Mpanzo, notre correspondant à Paris.
Bah, tout est bénéfique pour Chelsea, enfin, ouais. Au final, ce qui s'est passé ce week-end. Je voudrais juste rappeler que Chelsea est invaincu depuis le limogeage de José Mourinho. Ils n'ont pas perdu. Ce week-end, vous l'avez dit, ils ont gagné 5-1 contre Newcastle. Tout semble aller pour le mieux à Chelsea. Ils ont récupéré un peu tout le monde. Eden Hazard, qui n'était pas en grande forme depuis le début de la saison, revient petit à petit. Ce sera peut-être pour lui l'occasion de faire son premier grand match de la saison. Vraiment, tous les feux sont ouverts pour Chelsea, on peut le dire.
Et puis pour terminer, Bagassi, le Burkinabé Alain Traoré a naissé en Espagne avec un club russe.
Oui, selon des informations relayées par le journal français Ouest France, hein, l'international burkinabé va effectuer un essai en fin de semaine, hein, avec le club russe de Kirilia Sovetov, actuel 12e du championnat russe. Le milieu de terrain du FC Lorient a rejoint l'Espagne ce lundi où le club russe se prépare pour la reprise du championnat prévu début mars. Alain Traoré est le grand frère de Bertrand Traoré qui joue ce soir à Chelsea au Parc des Princes.
Merci Bagassi, au revoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgan Gayek et John Lyndon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, John, le Tchad.
Au Tchad, le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena a fait une communication ce mardi au parquet général. Communication axée sur le scandale de viol d'une fille mineure par un groupe d'enfants des dignitaires du régime en place, dont les images choquantes font tache d'huile depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le point avec André Kotmanjinga.
Suite à ce scandale de viol, le procureur général a fait déclencher l'action publique sans qu'aucune plainte ne lui soit adressée par les parents de la victime. C'est ainsi qu'après deux jours d'investigation et de recherche active de la police judiciaire, sept jeunes présumés sont appréhendés et mis à la disposition de la police. Trois autres jeunes impliqués dans cette affaire sont toujours en cavale, informe le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena. Il engage par ailleurs la responsabilité des parents. Bruno Maouli Loapambe.
Les enquêtes sont en cours en vue de repérer et interpeller Abdrahmane Tidjane Miss, alias Djunga, Mahmad Hamad Hajar, Hagar Brahim Mahmad et Hassan Nouren. En tout état de cause, les parents de ces enfants ont été mis en demeure de coopérer avec la police et de mettre à la disposition de cette unité leur progéniture en cavale, faute de quoi ils seront poursuivis pour recel de malfaiteurs en application des dispositions du code pénal qui le prévoit. Pour l'instant, par réquisitoire daté de ce matin, le parquet d'instance près le tribunal de grande instance de N'Djamena a ouvert une information judiciaire au premier cabinet d'instruction et les inculpés sont mis à la disposition du magistrat en charge de ce cabinet pour la suite de la procédure.
Selon le directeur général de la police nationale, les trois présumés auteurs en fuite sont repérés à Mara, un quartier situé dans la commune du premier arrondissement, et que leur arrestation sera imminente. S'agissant de la mort d'un jeune manifestant ce lundi, le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena précise que les présumés auteurs de cet assassinat doivent répondre de leurs actes.
Pour le cas du décès tragique du jeune Abachou Ousmane, nous informons l'opinion publique nationale et internationale que les éléments de la force de l'ordre mis en cause dans cette affaire seront mis aux arrêts et traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes.
Quatre chefs d'accusation pèsent sur ces présumés kidnappeurs, à savoir l'enlèvement, la séquestration, le viol et l'association des malfaiteurs. Si leurs culpabilités sont établies par le juge en charge du dossier, ils encourent un emprisonnement à perpétuité ou travaux forcés. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pour la première fois exprimé son indignation sur les réseaux sociaux suite à cet acte qu'il qualifie d'innommable causé par des délinquants et rassure à toutes et à tous que justice sera rendue et que jamais cet acte ignoble ne se répétera plus. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Cap à présent sur le Burundi, les mototaxis n'ont plus le droit de circuler dans la grande commune de Mukaza qui englobe plus de 5 zones au centre-ville de Bujumbura. Raison évoquée par le maire, certaines de ces mototaxis transporteraient des criminels ayant blessé hier plus de 30 personnes. Mais pour l'association des mototaxis, cette décision va appauvrir les citoyens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Les usagers des motos non commerciales, quant à eux, craignent que cette mesure ne freine leurs activités au quotidien. Reportage de Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Entre les deux rivières Nahangwa au nord et Moha au sud, aucune moto n'a le droit de circuler dans cette zone où vivent beaucoup de citadins. Après les attaques à la grenade ces derniers jours qui ont fait 8 personnes tuées, dont 4 enfants, en moins de 2 semaines et une centaine de personnes blessées, le maire de la ville a pris cette décision parce que les malfaiteurs utilisent des motos dans leur besogne de tuer des innocents. Freddy Mbonimpa revient sur les raisons de cette décision.
Étant donné qu'ils sont à l'origine de certains actes de terrorisme qui lancent les grenades dans les différents endroits de la ville. À partir de demain, les motos ne pourront plus circuler dans la commune de Mukaza.
Cet universitaire se déplaçait tous les jours à moto. Il indique que ça va lui causer beaucoup de retard.
vraiment, ça va nous faire beaucoup de problèmes. Parce que si ici au centre-ville, si on veut se déplacer, la moto était vraiment un déplacement très facilitatif. Ça peut arriver que c'est une mission très rapide. On doit attendre jusqu'à ce que les bus soient pleins. Il y a des retards.
Ce père de famille utilise quotidiennement sa moto pour se présenter à son travail. Il a ce mardi matin été obligé par les policiers de rebrousser chemin et de prendre un bus de transport en commun. Il demande que les policiers puissent distinguer les taxis-motos et les autres usagers normaux.
Les policiers m'ont arrêté en disant que les motos ne sont pas autorisés d'aller dans la ville de Bujumbura, même si ce sont des motos à usage d'affaires et promenades. Nous demandons de bien dire que les sociétés, les individus qui utilisent des motos dans les activités quotidiennes doivent bien continuer à travailler sans empêcher à leur activité.
Pour le président de l'association des propriétés de motos au Burundi, les taxis motos vont perdre beaucoup d'argent. Pascal Kwizera.
Nous avons pris une telle décision avec amertume. En 2010, nous avons perdu beaucoup d'argent quand le gouvernement avait pris cette décision. Nous sommes en train de tout faire pour que cette décision ne dure pas longtemps. La plupart de ces taxis-motos ont été achetés à crédit, mais aussi les usagers doivent arriver à temps au travail.
Cette décision a été prise après une réunion du maire de la ville avec les responsables sécuritaires et administratifs lundi soir. Après l'explosion de plusieurs grenades dans différents coins de la capitale, ce mardi, des militaires et policiers patrouillaient dans les rues de la capitale. Les véhicules qui traversaient les deux ponts de Ntahangwa et Moha étaient fouillés, tout comme les piétons. Christophe Koronziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Nous partons maintenant au Togo, un pays où des milliers de jeunes diplômés ont du mal à trouver du travail. Conséquence, l'auto-emploi se trouve être la voie royale pour échapper au chômage. Les initiatives pour amener les jeunes à l'entrepreneuriat se multiplient, parmi lesquelles J'ai dit j'ose. J'ai dit j'ose est un forum où les jeunes viennent échanger. Voici le reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
J'ai commencé mon parcours entrepreneurial il y a 16 ans. Avec 1000 francs, j'ai commencé à vendre des papiers mouchoirs.
Ce sont ces genres d'expériences qui sont partagées avec des jeunes à Jeudi J'ose. Le concept pensé par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ vise à réveiller l'esprit entrepreneurial qui sommeille en ces jeunes, pour la plupart confrontés au fléau de chômage. Sika Nyaniko de la cellule communication du FAEJ.
Jeudi J'ose, c'est une plateforme d'échange et de partage d'expériences à l'endroit des jeunes porteurs d'idées. L'objectif, c'est de promouvoir la culture entrepreneuriale au sein de cette jeunesse togolaise, orienter les jeunes en quête d'appui-conseil qui ont des questions sans réponse. Jeudi J'ose, c'est également des partages d'expériences d'entrepreneurs réussis.
Kofi Aménion Djamessi, la trentaine, est tisserand de son état. Avec un revenu mensuel de 130 000 francs CFA, dans un pays où le SMIC est à 35 000 francs, son parcours a de quoi séduire les jeunes pessimistes.
J'avais commencé quand j'étais au collège, je faisais la 5e, 4e, quand je voyais les gens faire des petits sacs en macramé. Donc je m'approchais de quand j'ai su faire ça un peu, j'étais parti chercher les cordes jetées et moi-même je les défilochais pour maintenant faire des petits trucs qui ne coûtaient qu'en pratiquement 300 francs. Et à base de cela, moi-même j'allais au grand marché, je vendais ça et c'est de là que j'ai trouvé des contacts des clients venant d'extérieur qui m'ont lancé des commandes.
Chaque deuxième jeudi du mois, les jeunes se retrouvent autour d'un thème et discutent à bâton rompu. Le jeudi 11 février dernier, le thème de Jeudi J'ose était « Entreprendre à zéro franc ». Nous retrouvons Sikania Nicole du FAEJ.
Nous avons voulu parler de ce thème pour leur montrer qu'on peut partir avec zéro franc, c'est-à-dire avec le peu qu'on a en poche, démarrer une petite activité et maintenant s'approcher des mécanismes mis en place par le gouvernement pour bénéficier de l'accompagnement technique et financier pour pouvoir structurer leur entreprise.
Entreprendre avec un minimum, c'est possible, comme le témoigne Frank Djawatara, une technicienne en informatique responsable d'une très petite entreprise en agroalimentaire.
Au niveau de FAEJ, après la formation, j'attends le financement qui n'est pas encore arrivé, mais je n'ai pas croisé les bras. Actuellement, j'ai un petit établissement où on fabrique la moutarde à la graine de Neri et j'attends le financement pour améliorer, pour avoir des machines, pour pouvoir faciliter le travail.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé. Boutros Boutros-Ghali n'est plus. L'ancien diplomate égyptien et secrétaire général de l'ONU est décédé dans son pays à 93 ans. Premier africain secrétaire général de l'Organisation mondiale, qu'il avait dirigé de 92 à 96, il avait dû renoncer à briguer un autre mandat suite à la position des pays anglo-saxons, dont les États-Unis. Timothée Donangmaï a joint à Montréal Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, qui avait connu personnellement Boutros Boutros-Ghali.
J'avais trouvé en lui un monsieur d'une très grande culture d'abord, premièrement. Et il n'y en a plus beaucoup comme ça dans le monde, et surtout en Afrique. Et quelqu'un de l'Afrique du Nord qui maîtrisait très bien l'Afrique subsaharienne. Donc il avait une idée très claire de l'unité de l'Afrique. Et je dois dire d'abord que c'était la première personne, puisque quand on s'est rencontrés, et il m'avait demandé de quel pays je venais, je lui ai dit que je venais du Congo, puis il m'a dit que entre le Congo et l'Égypte, il y avait une relation particulière. Puis moi, je lui disais peut-être l'Afrique. Il a dit oui, c'est clair, mais il y a plus que ça, il y a le Nil, puisque c'est lui qui m'avait donné d'ailleurs l'explication pour comprendre qu'en réalité, le Nil était très dépendant du Congo, que ce sont les eaux qui descendent du Rwenzori, le massif du Rwenzori, qui irriguent le Nil, qui font que le Nil avance rapidement, et puis aussi que ce sont les nuages de la forêt équatoriale congolaise qui s'échangent en eau au-dessus des hauts plateaux d'Éthiopie, qui crée le Nil bleu.
Alors, c'était le premier Africain secrétaire général de l'ONU. Qu'a-t-il apporté au continent?
Au continent, il a essayé d'essayer, c'est clair que ce que les gens lui reprochent très souvent, c'est l'affaire du Rwanda. Mais quand j'ai eu à parler avec lui, il m'a dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais ce sont les grandes puissances qui avaient d'autres intérêts et qu'il n'a pas beaucoup réussi à le convaincre de faire ce qu'il fallait. Mais il a aussi mis quand même l'Afrique un peu sur la carte à l'époque, puisqu'il parlait de possibilités et aussi d'engager beaucoup quand même d'Africains dans les organisations internationales.
Vous l'avez souligné, c'était aussi un francophone.
Absolument. Ce qui est un Égyptien francophone, ça ne court pas les rues, premièrement. Et donc, c'était une chose qui était un peu... C'est clair qu'il faisait partie de la bourgeoisie, disons, de l'aristocratie égyptienne, puisque son grand-père avait déjà été premier ministre. Et il fait aussi partie des Coptes, puisque c'était un chrétien aussi, dans un pays totalement musulman. Et que ça, je le sentis en ce moment, en parlant quelquefois avec lui, que ça lui avait fait beaucoup de peine de comprendre qu'à cause de sa religion, en réalité, il n'aurait pas pu devenir président d'Égypte, alors qu'il en avait les capacités.
Voilà, c'était Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Montréal. Malaika Nakupenda Malaika. Allez, quelques notes de musique pour signaler que la béninoise Angélique Kidjo a remporté son troisième Grammy Award hier à Los Angeles.
L'artiste a été récompensé dans la catégorie du meilleur album de musique du monde pour Sings, une compilation de ses chansons interprétées avec l'orchestre philharmonique du Luxembourg. C'est la deuxième distinction consécutive aux Grammy Awards après la toute première en 2007. VO Afrique lui adresse par ma voix ses félicitations. Je signale que Angélique Kidjo sera l'invitée de Roger Muntou dans RM Show tout à l'heure à 20h temps universel. Ne manquez pas ce rendez-vous.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec et John Lindon. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui,
diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes.